Paroles d'écriture, émission conçue et animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonsoir. Cette année, le thème de nos émissions, ce monde, où va-t-il ? Et ce soir, la voix des seniors. Les seniors, un phénomène mondial qui ne cesse de s'amplifier de façon variable selon les pays. Il faudrait parler du monde, il faudrait parler de la France. Et à ce propos, l'INSEE vient de sortir le 20 novembre, vous voyez que c'est très récent, une étude sur la vie sociale en France. Et cette année, elle est plus précisément consacrée aux seniors. Nous en reparlerons dans quelques instants. Pour aborder ce thème dont on parle de plus en plus, et pour cause, puisque les évolutions des seniors connaissent quelque chose de tout à fait fantastique, dois-je rappeler que en 2018, par exemple, nous sommes quasiment 20% de seniors en France, et que d'autre part, ce pourcentage va augmenter énormément, et que l'espérance de vie à la naissance a quasiment doublé entre 1890 et 2017, passant pour les hommes de 44 ans à 85 ans, pour les femmes et pour les hommes, 41 à 79 ans, on est toujours un peu en retard, ce qui fait que les femmes sont plus nombreuses après 95 ans, et vous comprendrez pourquoi. Alors, avant d'aborder à travers quelques chiffres, j'avais le choix entre plusieurs livres. Beaucoup de livres sortent actuellement sur les seniors. Il y avait, par exemple, un livre qui est sorti, « La lutte des classes ». Et « La lutte des classes », parce qu'il applique la formule à la lutte des âges, c'est comment les retraités ont pris le pouvoir. C'est un livre très contestataire sur lequel je n'ai pas envie de m'étendre ce soir parce que la manière dont il pose le problème, c'est un rapport de force entre générations que je ne partage pas personnellement. Je ne pense pas que ce soit sous cette forme qu'il faille aborder le problème. Un autre livre était « Du vieillissement, révolte et résignation » qui est un très beau livre, peu connu en France, de Jean Améry, mais de son vrai nom Hans Mayer, qui est écrivain et philosophe. Il est rescapé d'Auschwitz, se suicide en 78. C'est une réflexion magistrale et poignante où se mêlent la littérature et l'expérience vécue par l'un des plus grands intellectuels du XXe siècle qui pose la question que toute génération se pose. Que signifie vieillir quand on est soi-même un survivant? Ceci, c'est vrai non seulement pour ceux qui ont été dans des camps de concentration, mais qui ont connu la maladie grave, voire plus. Mais il y avait aussi un autre livre qui vient de sortir, « Vivre en solo après 60 ans ». L'auteur de ce livre aborde cette facette de la vie contemporaine que de nombreuses personnes de plus de 60 ans connaissent, vivre en solo. La vie de couple, il n'y en a plus, par le divorce, la séparation ou la mort. Le cadre de vie est bousculé par le travail, etc. Mais j'ai choisi un autre livre qui vient de paraître dans sa deuxième édition, « En avant la retraite », le sous-titre « Mieux gérer la transition ». C'est une nouvelle édition qui est parue en septembre, donc vous voyez, c'est très récent. Et nous avons la chance avec nous d'avoir Daniel Lévy, l'un des deux auteurs de ce livre. Bonsoir Daniel.
Bonsoir Michel.
Alors Daniel, est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de vous? Vous avez un itinéraire tout à fait surprenant. Alors je pense que les auditeurs ont envie de connaître un peu celui qui va parler avec vous, avec nous, jusqu'à 19h.
Oui, donc merci. Je vais résumer mon parcours. Donc, j'ai travaillé très jeune, et puis je me suis intéressé assez rapidement à l'art. J'ai fait l'école du Louvre, toujours très jeune, et ensuite, j'ai fait une carrière chez IBM. Avant, j'avais fait 6-7 ans d'animation culturelle. Enfin, tout ça pour dire que ma carrière la plus longue a été chez IBM, comme ingénieur commercial. Donc en charge des grands comptes. Et il se trouve que j'ai pris ma retraite à 60 ans, donc puisque j'en avais l'opportunité. Et là, je suis parti à l'université pour passer une maîtrise de coaching, parce que c'est un métier qui m'intéressait depuis longtemps. Et bon, je voulais arriver à le pratiquer, ce que j'ai fait pendant 5-6 ans. Et puis ensuite... tiré de cette expérience de coaching qu'on avait fait à deux, avec Juliette Elson, nous avons mis en commun la matière que nous avions mis de côté pour faire les séminaires de préparation à la retraite, pour écrire ce livre. Donc la première édition a été fin 2015, début 2016, et puis là il se trouve que, comme on donnait pas mal de chiffres, pas mal de statistiques, on avait voulu être assez près de la réalité. Et donc, on a proposé aux éditions L'Harmattan de faire une nouvelle édition avec des mises à jour statistiques, etc., puisque l'INSEE sort des statistiques tout le temps.
Alors, Daniel, j'ai envie de vous poser la question, mais pourquoi ce livre? Pourquoi vous avez eu l'idée de faire ce livre?
Alors, pourquoi ça se décline pour moi en deux phases. Il y a pourquoi en un seul mot et pourquoi en deux mots. C'est un peu ce que l'on a comme réflexion quand on est coach. On se pose la question du pourquoi en deux mots. Donc le pourquoi en un seul mot, ben ça c'est assez simple. En fait, c'est parti d'un constat que plus de 700 000 personnes prennent leur retraite chaque année depuis 2010. Et après le deuxième constat, on a regardé sur Amazon, pour pas le nommer, et on a vu qu'il y avait 160 livres en 2016, hein, 160 livres de parus qui parlaient des seniors, des retraités, mais pour tout sauf de cette période de transition qui est en fait psychologiquement assez difficile à vivre pour une partie des futurs retraités. Donc on a dit, il n'y a pas de livre qui parle de l'aide que l'on pourrait apporter aux retraités pendant cette phase de transition, donc ben, il faut qu'on l'écrive. Donc ce livre, il s'adresse à ceux qui n'ont pas encore pris leur retraite, à ceux qui viennent de la prendre, et à ceux qui l'ont prise il y a déjà un petit moment, et j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Voilà. Maintenant, la deuxième question, pourquoi en deux mots, ben, on s'est mis dans la peau d'un retraité ou d'un futur retraité, d'accord ? On s'est mis à sa place et on s'est posé toutes les questions que peut se poser un futur retraité pendant cette période de transition sur les choix, sur son avenir, sur la vie qu'il va mener, etc. Et nous verrons au fur et à mesure du déroulement qu'il y a beaucoup de sujets qui sont communs à tout le monde, les retraités comme les autres. On a gardé en mémoire aussi le fait que aujourd'hui il y a 17 millions de retraités, 2016, enfin INSEE 2016, mais que l'INSEE dit que en fonction des mises à la retraite jusqu'en 2022, nous serons, je dis nous parce que je suis retraité, nous serons 20 millions en 2022, c'est-à-dire dans 7 ans. Et comme Michel, vous le disiez tout à l'heure, on représente 20% de la population, à ce moment-là, on commencera à représenter entre 25 et 30% de la population et plus de 35% en 2050. C'est-à-dire que le problème va pas retomber, c'est pas un sujet pour le buzz.
Daniel, les chiffres que vous avez donnés sont passionnants. Une précision, je pense qu'on va pouvoir mettre tout de suite sur la table. Certains, comme l'INSEE, prennent les seniors à partir de 65 ans. Dans d'autres cas, c'est 60 ans. Et dans d'autres cas, c'est 55 ans. Alors, 65 ans, selon le chiffre INSEE, on peut en débattre. L'INSEE nous rappelle qu'en 1870, c'était 7% de la population, qu'actuellement, c'est 20%. Et que d'autre part, ça va être 30% dans les années 2060-2070. Mais c'est 65 ans. Et si nous partions de 60 ans, il y en aurait plus.
Bien sûr.
Ce que nous pouvons dire aussi ce soir, une chose très très importante, c'est que désormais, avoir un tiers de sa vie comme senior devient, j'allais dire, une sorte de normalité. Entre 60 ou 55 ans pour certains, jusqu'à 85, voire etc. Nous avons un tiers de notre vie, comme senior. C'est impressionnant comme chiffre.
Et avec l'allongement de la durée de la vie, on s'aperçoit, certains statisticiens ont calculé qu'on va bientôt avoir travaillé autant de temps que de temps de retraite.
Oui, ce qui laisse penser que certains vont être obligés de travailler
plus et plus longtemps.
Et plus longtemps pour survivre, alors que d'autres pourront le faire par plaisir. Oui. Il y a énormément de débats. Vous le centrez sur la transition, car effectivement, c'est très important. Beaucoup de gens autour de moi arrivent au moment de la retraite sans se préparer, et c'est un peu la catastrophe. Car entrer en retraite, c'est retrouver sa femme qu'on ne voyait pas autant de fois dans la maison comme avant, c'est se retrouver les mains vides, c'est se retrouver, etc. Et cette transition est essentielle. Et à mon humble avis, j'en discutais l'autre jour avec des étudiants, ils considèrent que la transition vers la retraite commence quand ils sont étudiants, pour un tas de raisons, ne serait-ce que de mettre de l'argent de côté et se préparer mentalement à gérer leur enfant, etc. On voit que la séquence de la retraite, c'est-à-dire un tiers de la vie, est en train de bousculer les deux autres séquences de vie avant, enfant et adolescent et adulte. Alors, on pourrait rentrer dans les chiffres, et je sais que vous en avez préparé, votre livre est passionnant parce qu'il en comporte énormément là-dessus, mais j'ai envie tout de suite de vous poser la question, finalement, l'origine de la retraite, elle vient d'où ?
Alors, l'origine de la retraite, c'est pas si vieux que ça. Il faut juste revenir à Louis XIV. Donc, sous Louis XIV, en 1670, Louis XIV construit les Invalides. Donc là, les Invalides, il le construit pour s'occuper des vieux sans ressources et sans famille. Et les Invalides sont faits essentiellement pour les gens de la marine française. Alors, je présume que il devait y avoir l'espérance de vie à l'époque n'était pas très élevée, mais on a commencé à s'occuper donc des ce qu'on appelait à l'époque des indigents sous Louis XIV. Ensuite, en 1673, c'est-à-dire 3 ans après, Colbert, donc le ministre de Louis XIV, il crée la Caisse des Invalides et de la Marine, qui est aujourd'hui l'établissement national des Invalides de la Marine. Vous savez, ce qui se trouve place de la Concorde. Donc, c'est la première fois que là, en 1670, on s'occupait des gens qui étaient vieux et qui ne pouvaient plus travailler. À partir de 1673, on leur donne une pension. Donc ça, c'est une pension pour tous ceux qui ne peuvent plus travailler. D'accord ? La famille et les institutions religieuses ne sont plus les principaux pourvoyeurs de tout ce qui était nourriture, entretien, etc., pour tous les pauvres de l'époque. En tout cas, donc, pour distinction à l'époque entre ceux qui ont travaillé et ceux qui n'ont pas travaillé. Après, on trouve en 1784, et ça c'est assez paradoxal et ça m'a frappé quand je l'ai lu, c'est que 1784, on va commencer à distinguer la pension d'invalidité de la pension de vieillesse. Alors, c'était attribué à 60 ans, déjà, vous allez dire. Oui, sauf que l'espérance de vie devait être de 5 ou 6 ans supplémentaires. Bon, détail historique, qui là est vraiment surprenant, parce qu'on ne s'attendait pas à ça, la Révolution française, donc elle multiplie les déclarations d'intention tout en détruisant toutes les bases de la protection sociale existante. Faut quand même le faire. Donc, on peut dire que les révolutionnaires, les Danton, les Robespierre, n'avaient pas la fibre sociale, mais ça, c'est l'histoire. Voilà. Il a fallu, pour que la retraite prenne son assise, que le consulat crée, en 1803, donc, un siècle de stabilité monétaire. Et c'est pendant ce siècle de stabilité monétaire, donc pas d'inflation, pas d'augmentation, rien, le franc or était la monnaie de référence, on a pu commencer à mettre en place de l'épargne. D'accord ? Les entreprises ont mis en place de l'épargne. Bon, après, et j'en ai presque terminé, bon, l'Empire autorise en 1808 les sociétés de prévoyance, puisque c'est comme ça que ça a commencé, à payer une retraite à leurs salariés. Et devinez, on a commencé par quoi ? La Banque de France et la Comédie française. Ce qui est quand même, c'est quand même quelque chose de moral. Bon, c'est l'Allemagne de Bismarck, hein, en 1883, qui est le premier à mettre en place un système obligatoire de retraite. ça arrivera en France après. Donc Bismarck, lui, c'est 70 ans. Et en France, c'est la loi de 1910 pour une retraite à 65 ans. Donc on est passé de des indigents à j'ai capitalisé comme la et je vais donner une retraite à mes salariés à ça devient obligatoire et là l'État joue un rôle prééminent qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Bien entendu, en ce qui nous concerne, ce qui concerne la France, c'est le XXe siècle qui va voir l'extension complète de la retraite obligatoire à l'ensemble de la population active, plus tous les salariés en fait. Voilà, et en 1905, c'est la loi de départ sur l'assistance obligatoire aux infirmes, incurables et les vieux travailleurs à partir de 70 ans. Après, bon, 1905 à aujourd'hui, ça bouge tous les jours.
C'était bon de rappeler cette histoire parce qu'il faut voir d'où on vient pour mieux comprendre les problèmes contemporains. L'augmentation de la durée de vie, de l'espérance de vie est absolument incroyable, inimaginable. Même si on prend 30 ou 40 ans avant nous, ça devient quelque chose d'énorme. Un tiers de la vie va se passer comme l'âge senior. C'est assez impressionnant. Alors, nous allons écouter cette musique. On arrive à la fin de la première partie. On va l'écouter un petit peu et vous allez nous dire pourquoi vous l'avez choisie. Cette musique, Daniel ?
Eh bien, comme beaucoup de gens, je pense, en tout cas les gens qui aiment l'opéra, la Callas reste... Excusez-moi. La Callas reste une, non seulement une diva, mais une déesse. Un modèle pour les chanteurs et les chanteuses aujourd'hui. Elle a mis tellement, tellement de sa vie privée dans ses interprétations. Elle a eu une vie de, que je ne, bon, je vais rester poli, mais vraiment une vie extrêmement difficile. Et hélas, elle est morte toute seule à Paris. Dans le 16e arrondissement, un peu oublié, il faut dire.
Une fin de vie incroyable par rapport à sa vie.
Il faut aller voir le film Maria Callas.
Merci, Daniel. Je rappelle votre livre, trois chapitres, quatre chapitres majeurs. Le premier, place et rôle du retraité dans la société actuelle. Le deuxième, les sujets communs à tous les retraités. Le troisième, le temps à soi et le rapport au temps. Le quatrième, une retraite heureuse parce que je le vaux bien. Et trois annexes que je trouve passionnantes, sur lesquelles on va revenir dans la deuxième partie. Nous allons terminer cette première séquence de l'émission en revenant sur cette musique que nous avons écoutée et que nous allons prolonger un peu. La même musique. Ce soir, chers auditeurs, sur ce thème de l'année, ce monde où va-t-il ? La voix VOIE de Senior et la voix VOIX avec Daniel Lévy pour son livre En avant la retraite, mieux gérer la transition. Je vous rappelle, quatre chapitres, trois annexes, et nous reviendrons sur un certain nombre de points. Mais Daniel, d'abord, j'ai envie de vous donner carte blanche et je vous invite à dire ce qui vous semble essentiel. Le temps, malheureusement, est compté. Alors mettez en valeur ce dont vous avez envie. Je ne vous arrêterai pas. On essaiera, à mi-parcours, de retrouver le deuxième morceau de musique que vous avez choisi. Vous avez la parole, Daniel.
C'est un vrai supplice. Merci
non,
beaucoup.
Pas du tout.
Merci, Michel. Oui, qu'est-ce que j'aurais envie de mettre en valeur ? Je pense que un des points forts du livre, ce qu'on a essayé de faire en tout cas, c'est de se mettre à la place des retraités. Et donc de se poser de se poser toutes les questions qu'on se pose quand on prend sa retraite. Ce qui a été notre cas, en attendant. Donc ce que je voulais dire, c'est la raison pour laquelle aussi on a mis dans le livre, on a résumé chaque sous-chapitre, et on a mis à la fin de chaque sujet, soit des quiz, soit des exercices. En se mettant à la place du retraité, c'est « voilà ce qu'ils me disent, c'est bien gentil, mais et où est-ce que j'en suis moi, par rapport à leur point de vue à eux ?» Par rapport aux pistes qu'ils m'ont données. Et là, les exercices deviennent « bon, je vais être tranquille dans son coin avec le livre et on n'a de compte à rendre à personne. » Mais au moins, personnellement, on sait un peu où on en est.
Pour moi, Daniel, c'est un point très positif du livre. C'est pourquoi c'est pas un mode d'emploi, c'est pas un guide, c'est une invitation à construire soi-même sa transition.
Absolument, et à faire ses choix.
Tout à fait.
Donc, si j'avais quelque chose à... Bon, c'est un parti à choisir. C'est un peu comme on a écrit un premier livre en 2016 et celui-là maintenant. Ce qu'on a fait, c'est on a mis à jour les chiffres et on a développé les sujets émergents depuis 3 ans. Donc, un des premiers sujets qui nous est apparu important, bon, c'était de mettre en exergue la santé. Parce qu'on vit de plus en plus longtemps. On a voulu insister aussi, comme on l'avait fait la première fois, sur l'hygiène de vie, qui est absolument indispensable. Un, si on veut vivre vieux, et deux, en bonne santé. Ensuite, on a, dans les sujets émergents, on a pris le lieu de vie et l'art de vivre. Donc le lieu de vie, ben, ça devient de plus en plus un choix primordial, compte tenu de ce que Michel vous a dit tout à l'heure, à savoir qu'on vit un tiers de sa vie à la retraite, faut pas se tromper dans le lieu où on va habiter. Donc, dans le lieu de vie, c'est un sujet très vaste parce que il touche absolument tous les sujets, tout ce qui nous entoure, tout ce qui entoure un futur retraité. Que ce soit l'argent, la famille, la vie de couple, les liens sociaux, que ce soit la vie en communauté, que ce soit la participation dans un village. Donc, si vous voulez, ça touche à la fois la société, à la fois nous-mêmes et notre environnement. Bon, le lien social. Donc là, on a remis, comment on pourrait dire, une petite couche pour dire que c'était le corollaire de la santé, qu'il était absolument indispensable pour vivre les 25 ans de retraite avec une nouvelle vie, qu'il était absolument indispensable d'avoir des liens sociaux, familiaux, professionnels, amicaux, affinitaires. Enfin, il y a cinq possibilités. Ensuite, on a développé aussi la réflexion sur soi. Donc la réflexion sur soi, c'est les chapitres 3 et 4 qui concernent l'estime de soi, le lâcher prise, la perception du temps, redevenir un enfant, s'émerveiller, créer, être curieux. Donc tout ça, c'est tout ce qui compose notre personnalité. Et c'est le pendant de la première partie du livre, si je peux dire, à savoir là où tout, la première partie, c'est tout ce qui est commun à tout le monde. Alors, dans la nouvelle édition, donc, on a développé les relations intergénérationnelles parce qu'avec les réseaux sociaux, tout est bouleversé. Il y a même, d'après les chercheurs aujourd'hui, un renversement de tendance sur la transmission entre générations, à savoir aujourd'hui, c'est les retraités et les seniors qui vont demander à leurs petits-enfants comment ça marche. Bon, la perception du temps pour un retraité du XXIe siècle, cette perception du temps, elle est maintenant sous le boisseau, sous la pierre énorme de la multitude d'informations en circulation. Et ce qu'on dit dans le livre, c'est qu'il faut garder une certaine sérénité. Et en tout cas, l'élément le plus important qu'il faut cultiver, c'est la perspicacité, afin de ne pas se noyer dans les milliers d'informations qui ne nous servent pas. dans les nouveaux sujets qu'on a abordés, on a abordé la solitude et l'isolement social. Donc, c'est un nouveau phénomène qui est vraiment émergent, et une enquête du Petit Frère Les Pauvres et du CSA en 2017 ont montré vraiment des situations assez, assez terribles et qui concernent des centaines de milliers de personnes. Bon, la place et le rôle du Rotary dans la société, là je dirais, ce chapitre s'inscrit pleinement dans tous les sujets d'actualité concernant les retraités que l'on a aujourd'hui, qu'ils soient gilets jaunes, que ce soit CSG, etc. L'impact sociétal qu'ont ces décisions est énorme et va devenir insupportable dans pas longtemps. Voilà.
Daniel, on écoute la deuxième musique que vous nous avez proposée ce soir. Écoutons. Oui. Daniel, pourquoi cette musique ? Magnifique d'ailleurs.
Donc là, j'aurai un peu moins d'émotion que tout à l'heure en parlant de la Calas. Mais Chris, c'est son nouveau nom, Christine the Queen, est un ovni qui est arrivé dans la musique et qui a pris de plein fouet le monde entier. Et je suis tout à fait admiratif de cette jeune femme qui ne fait rien au hasard. C'est une intellectuelle. C'est une jeune fille de bonne famille. Et on connaît sa vie. Elle a fréquenté des endroits interlopes. D'ailleurs, elle avoue qu'elle est bisexuelle. Mais tout ça ne la dérange pas. Elle vit tout ça avec une franchise et avec une sérénité qui, honnêtement, aujourd'hui, mais pas encore. Quoi. Et donc, je trouve que la musique qu'elle fait et représente l'exacte situation du monde d'aujourd'hui. Donc il faut écouter les autres morceaux, mais à chaque fois, et maintenant, comme elle a une audience planétaire, elle fait une version en anglais, parce que bien entendu, elle parle et bilingue. Vous voyez, c'est à la fois quelqu'un d'intellectuellement extrêmement acéré et quelqu'un qui est serein, parce qu'elle a fait le tour, je présume, avec une bonne psychanalyse, mais elle a fait le tour d'elle-même. Et aujourd'hui, elle est capable de nous donner tout ça.
Merci de cette explication, Daniel. Continuons et terminons sur votre livre. Il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en valeur encore ?
Alors, s'il y avait un sujet, parce que bien évidemment, j'aurais bien parlé du tout connecté, puisque ça aussi, on en parle, on sait que tous les objets connectés demain vont nous envahir. Ils vont être des milliards à nous envahir. Et ça va être assez difficile pour les seniors de faire face, mais aujourd'hui, il y a 80% des seniors qui utilisent les réseaux sociaux. Ça, ce que j'appelle l'Internet d'avant. Mais le tout connecté, c'est tout ce qui concerne la domotique et tout ce qui va aider les gens, en tout cas ceux qui ont un peu de difficulté à vivre. Mais en fait, je pense qu'un des sujets que je voudrais traiter, faut que je retrouve mes notes, et qui est redevenir un enfant. Aujourd'hui, je pense que quand on est un senior, on a perdu depuis longtemps les petits cailloux qui nous permettraient de s'émerveiller, d'être curieux et de pouvoir créer. J'ai la chance de connaître, dans mes amis, des gens qui ont 75 ans et qui tous les matins s'émerveillent de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent. Alors ils font de la peinture, ils créent, et je pense que ça c'est un élément important. Et je voudrais juste citer Albert Einstein qui disait « L'homme qui ne s'émerveille plus est un homme qui a pratiquement cessé de vivre. » Bon, comme on peut considérer qu'il a raison sur d'autres points, je pense que sur celui-là aussi.
Alors, entre autres, Daniel, j'ai beaucoup apprécié ce passage de votre livre « Redevenir enfant, s'émerveiller et créer » parce que vous touchez du doigt quelque chose d'essentiel. Parfois, on dit que la personne âgée retombe en enfance. Elle retombe pas. Elle ne tombe pas. Elle redécouvre l'enfance. Et je pense que la complicité qu'il y a souvent entre les enfants et les adolescents, un peu moins, et les seniors, elle vient de cette même quête, de cette même recherche, comme si l'âge dit active nous avait empêché d'être attentif à l'émerveillement, à la beauté du monde et à la découverte de soi et des autres. Et je trouve que ce passage de votre livre est très beau, car de se dire qu'à 60 ans, 65 ans, 70 ans, 80, 90 voire plus, on a encore cette capacité de s'émerveiller, de pleurer devant la beauté de la nature, devant une musique ou une voix, comme vous l'avez fait tout à l'heure, c'est quelque chose de fantastique qui montre bien que la vie est toujours la vie si on accepte de construire son existence. Il y a un autre passage, le dernier dans votre livre, que j'ai beaucoup aimé.
Je vais juste vous dire,
oui.
Vous m'avez parlé d'Icare Morin l'autre jour, et je pense que c'est ce type d'homme qui est capable de s'émerveiller.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, à la fin de votre livre, vous choisissez, j'allais dire, un passage que dans cette émission, on a fait plusieurs fois, mais je ne peux pas m'empêcher d'en extraire un tout petit morceau, un texte dans la fin et la synthèse, qui ne vient pas de Pablo Neruda, mais on ne sait pas très bien quel est l'auteur. Il y en a plusieurs qui se prétendent, mais c'est le texte qu'il faut retenir. Il meurt lentement, celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux. Et on pourrait tant dire et tant continuer encore, il meurt lentement. Et on peut inviter chaque auditeur ce soir à écrire sur un papier « Tu meurs lentement, si, etc. » Et que chaque auditeur s'interroge. Mais en même temps, sur une page à côté, il pourrait dire « Je renais lentement, mais fondamentalement, si, etc. » Parce qu'il y a la création et il y a l'émerveillement, qui est quelque chose de fabuleux, à mon avis, en l'occurrence. Alors,
absolument.
Dans ce livre, je crois, maintenant, quels sont vos projets? Je crois que vous voulez travailler un petit peu sur l'usage des technologies que les seniors font actuellement.
Alors, bon, j'ai un projet, c'est... Vous savez peut-être, mais bon, l'Harmattan a créé un collège international des seniors. Bon, il se trouve que la création de ce collège a été concomitant avec la sortie de notre livre. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tous les sujets qui vont être abordés dans ce collège sont déjà un tout petit
peu... dans ce livre.
C'est déjà dans ce livre. Donc moi, j'ai été... je sais pas comment on peut dire ça, mais extrêmement content, enfin, je sais pas si content est le mot, mais de voir que finalement... Tout ce que l'on a écrit avec Juliette depuis 2016 peut avoir une vie à travers une organisation internationale, hein, puisque pas vous qui me contredirez, mais c'est vraiment un collège international des seniors et j'ai l'intention, mon projet c'est de travailler, de monter des ateliers sur les nouvelles technologies et les seniors. J'ai d'autres idées qui sont...
Ça, je vous fais confiance
pour les
idées.
Qui sont en gestation, mais qui se font vraisemblablement dans le cadre de ce collège.
Alors, vous parlez du Collège international de seniors. Voici le site accessible à toutes, parce qu'il y a un site qui est accessible qu'aux adhérents. C'est cis-h.org. Et si vous voulez avoir plus d'informations, écrivez tout simplement Collège international de seniors, 16 rue des Écoles, 75 005 Paris. Sachez que chaque région en France aura un correspondant pour Noël et que 30 pays dans le monde auront un correspondant. C'est quelque chose qui évolue très vite. Effectivement, ce livre s'inscrit tout à fait dans cette perspective. Je redis à tous nos auditeurs, en avant la retraite, mieux gérer la transition, la nouvelle édition, c'est la deuxième, hein, en l'occurrence. Oui. Et il y en aura peut-être une troisième, pourquoi pas.
J'y travaille.
Hein, parce que tel qu'il est parti, c'est un livre qu'on a envie d'avoir près de soi, de consulter, parfois sur des choses auxquelles on n'avait pas pensé ou qu'on connaissait mal, comme l'histoire de la retraite. Parfois, par exemple, sur la vie de couple, dont on n'a pas beaucoup parlé ce soir, mais c'est un sujet que vous abordez aussi. Car la vie de couple, quand on se retrouve senior et à la retraite, c'est pas du tout la même chose que dans la vie active. Donc ce livre est une mine d'informations. Et je crois que Daniel nous donne, avec ce livre, la voix VOIE des seniors, mais aussi la voix VOIX, vous l'avez entendu. Merci beaucoup, Daniel. Avez-vous quelque chose à rajouter ? Non.
J'ai rien de particulier. J'aurais tellement à dire.
D'accord, je m'en doute. Alors, je voudrais juste faire une petite remarque dans le peu de temps qui nous reste. Vous avez parlé à juste titre de la transmission de connaissances en travers les générations et vous avez pris l'exemple du seigneur qui va voir son petit-fils et qui lui dit comment ça marche ce truc-là. Et donc, c'est le petit-fils qui donne des informations techniques. Moi, j'ai envie de dire que il y a une sorte de co-transmission de savoir et qu'actuellement, les jeunes sont capables de répondre à des questions extraordinaires. Moi, je les trouve, j'ai l'occasion d'être entouré d'étudiants, comment ça marche. Je pose souvent la question à certains d'entre eux ou à certaines d'entre eux qui m'expliquent comment ça marche. Mais eux me posent parfois la question, dis-moi, comment peut-on exister dans notre monde ? Et donc, chacun apporte à l'autre quelque chose d'extraordinaire. Je trouve que ce débat sur les seniors, il a, à mon humble avis, trois dimensions. Il a la dimension de la vieillesse, mais rappelons, et vous le rappelez très bien dans votre livre, que la vieillesse commence au moment de la naissance. Donc la vieillesse, c'est le processus de vie qui est un processus de vieillesse. Donc la vieillesse, c'est inhérente à la vie. Il y a l'étape des seniors, dont on a parlé ce soir, qui est le temps de la retraite, un tiers de la vie, ce qui est impressionnant. Enfin, s'y préparer, la transition est essentielle. On ne se prépare pas lorsqu'on est déjà en situation de retraité, il faut se préparer avant. Et puis il y a la question de l'existence, c'est qu'une vie désormais, c'est une suite de ce que l'on appelle trois séquences, enfance, adolescence, adulte, enfin dit adulte et senior. En fait, c'est la vie qui nous est là, courte, qu'elle soit de 60 ans, 90 ans et demain 100 ans, 120 ans. Une émission récente à la télévision nous montrait qu'on peut augmenter sa vie entre 5 et 15 ans si...
Dans le transhumanisme.
Oui. Bon, non, pas le transhumanisme, justement. Le transhumanisme, c'est laisser croire qu'on peut vivre très très longtemps. Mmh. Non, on peut améliorer sa vie mieux et plus longtemps entre 5 et 10 ans, 15 ans, si on gère, comme vous dites, la santé, les conditions de vie, etc.
L'hygiène de vie.
Hygiène de vie, ce que vous appelez l'hygiène de vie. Et là, il faudrait continuer les émissions, faire toute l'année des émissions là-dessus. On ne peut pas. Donc, voyez ce livre aux éditions L'Harmattan, En avant la retraite, de Juliette Elson et de Daniel Lévy. Voyez le Collège international de seniors dont vous a parlé Daniel, 16 rue des Écoles, 75 005 Paris. Daniel, merci beaucoup. Et je propose d'écouter, de terminer cette émission en continuant la musique qu'on a écoutée tout à l'heure, de la reprendre pour terminer la totalité de l'émission. La deuxième musique, et de l'écouter, car elle est très belle, car après l'explication que vous nous avez donnée, c'est un encouragement à être pleinement soi-même.
Oui.
Merci, Daniel.
De rien. Merci à vous de m'avoir invité.
Pas de l'immeuble.